Gérard Wenger, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. On va évoquer un passé douloureux. Hein. C'était il y a 84 ans maintenant, le 16 et le 17 juillet 42. La France voyait sa plus grande rafle des nazis sur les juifs. Plus de 13 000 personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, étaient arrêtées à Paris. Je parle évidemment de la rafle du Veldiv. Gérard Wenger, pour commencer, remettons les choses dans leur contexte. Que s'est-il passé ce jour-là?
Ce jour-là, comme vous le dites vous-même, il y a eu plus de 13 000 hommes, femmes, vieillards, enfants qui ont été raflés par la police française. Aucun soldat allemand n'a participé à cette rafle. Cette rafle a été montée par Pierre Laval et le secrétaire général de la police, René Bousquet, et son adjoint Le Guet. Laval voulait montrer aux Allemands qu'il était disposé à collaborer et il espérait en tirer quelques avantages pour la France, qui naturellement ne sont pas venus se mettre à la tête de cette ignominie. Donc cette rafle s'est déroulée très tôt le matin, essentiellement dans les quartiers où habitaient les Juifs, c'est-à-dire les quartiers centraux du Marais, des quatre premiers arrondissements de Paris. Mais elle n'a pas été une réussite parce que les Allemands escomptaient prendre près du double de personnes. Ils ont pris plus de 13 000, mais ils en escomptaient 25 000. Beaucoup ont été prévenus de la rafle par la résistance juive, et par un certain nombre de policiers qui étaient heurtés par ce qui allait se passer, sans compter des policiers qui, participant à la rafle, sont montés dans les étages et ont dit « Préparez vos affaires, on revient dans un quart d'heure ». Dans la plupart des cas, heureusement, il n'y avait plus personne un quart d'heure après. Néanmoins, comme vous le dites, c'est la plus grande rafle organisé en France par les autorités de Vichy au service des autorités allemandes.
Alors justement, vous le rappelez, pas de soldats allemands qui ont participé à cette rafle, c'est la police française qui l'a fait. Vous avez évidemment cité le nom du tristement célèbre Pierre Laval. Est-ce qu'on est là face peut-être au plus gros acte de collaboration de la France pendant la guerre?
Or, acte de collaboration, il y en a eu plein d'autres, hein. Quand Darlan a été président, chef du gouvernement, il a collaboré nettement avec les Allemands sur le plan militaire. Il a donné des aéroports au Liban et en Syrie pour combattre aux côtés des rebelles irakiens qui voulaient s'en prendre aux Anglais. Il a ouvert la Tunisie aux troupes allemandes au moment du débarquement de l'opération Torch en Afrique du Nord en novembre 1942. Après les rafles contre les Juifs, il y a eu le service du travail obligatoire où l'on imposait aux jeunes Français de partir travailler en Allemagne, etc., etc., sans oublier le rôle à la fin de la guerre de Joseph Darnan et de la milice au service des bases œuvres de la Gestapo et des autorités allemandes. Donc, les actes de collaboration n'ont pas manqué. Tous les historiens, un de Robert Paxton à Laurent Joly aujourd'hui, ont bien montré que la politique de Vichy n'était que collaboration.
Bien sûr. Alors, un peu plus tard, enfin même beaucoup plus tard, le 16 juillet 1995, Jacques Chirac fait un discours. Il reconnaît les actions de la France et de la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv. Je le rappelle, c'est très tard tout de même, c'est 50 ans plus tard presque. Est-ce que c'est quelque chose qui a heurté la communauté juive qu'on reconnaisse aussi tard cette responsabilité de la France?
Tout ça s'est fait progressivement. Quand j'étais lycéen dans les années 60, en terminale, On parlait de la Seconde Guerre mondiale, on parlait des persécutions contre les Juifs, mais on ne parlait pas du rôle de Vichy dans cette persécution. Il a fallu attendre, je crois que c'est en 68, le livre de Claude Tillard sur la rafle du Veldiv, justement, pour qu'on commence à s'apercevoir que la déportation des Juifs français s'est faite avec la participation active de Vichy. Il y a eu un film au début des années 70 qui était Les guichets du Louvre de Mitrani, qui a bien montré ce qu'était cette rafle avec le rôle de la police française. Ensuite, tous les travaux de Serge et Beate Klarsfeld qui ont mis en avant cette collaboration et le rôle de Bousquet. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça a déclenché quand même un refus très net de la population française qui se doutait bien que si on embarquait des enfants et des vieillards, c'était pas pour les faire travailler, qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer, mais qu'ils se doutaient bien que c'était pas un sort très favorable qui attendait les Juifs. Et Laval a dû arrêter avec Pétain, et ils ont dû arrêter cette rafle massive qui continuait d'ailleurs en zone sud non occupée en septembre, octobre. Ils ont dû arrêter ça, non pas parce qu'ils voulaient protéger les Juifs français, comme le prétend absurdement Éric Zemmour en France, mais parce que l'Église de France et la Fédération protestante ont protesté, et pour Laval comme Pétain, il n'était pas possible d'envisager des protestations plus fortes encore de la part des églises et de la population, parce que les rapports des préfets montrent bien que la population française était heurtée véritablement par ce qu'elle voyait. Donc l'absurdité de ce que dit Zemmour, à savoir qu'il s'agissait de protéger les Juifs français, est grotesque, parce que dès 1941, avec la rafle des notables notamment, des Juifs français sont transférés à Drancy puis déportés. Donc tout ça est plus que douteux sur le plan historique, et je ne parle pas de l'aspect politique.
Pour terminer, Gérard Unger, depuis le 7 octobre 2023 et la riposte militaire israélienne, on assiste à une flambée des actes antisémites. Aujourd'hui, en France, quel impact a cette commémoration sur la rafle du Veldiv dans le contexte actuel ?
Non, bah dans le contexte actuel, moi j'ai vu à une cérémonie il y a quelques années, Monsieur Émeric Caron, député LFI, venir se recueillir au Veldiv le 16, dimanche suivant le 16 juillet. Et donc, certains n'ont peur de rien, et au travers de leurs accusations, veulent montrer qu'ils ne le sont pas antisémites. On les laisse avec leur conscience en débattre. On a affaire à des tentatives de récupération de la part de LFI pour se dédouaner, mais il est clair qu'ils n'y parviennent pas, et ils restent confis dans leur antisionisme, comme ils disent, qui, parce que ils condamnent de facto l'existence de l'État d'Israël, aboutit à un antisémitisme. Là-dessus, il n'y a malheureusement aucun doute.
Gérard Unger, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka.
Je vous en prie. Merci. Au revoir.